J'en profite encore 30 secondes pour vous présenter un des membres de notre équipe, donc le père Xavier Dijon, qui est professeur émérite des facultés Notre-Dame de la Paix, mais qui habite à Bruxelles actuellement, et qui interviendra souvent, si j'ose dire, le jeudi soir, pour ceux et celles qui viennent le jeudi soir. Alors nous, pour situer un peu le contexte, nous sommes trois autres professeurs, le père Thierry Livens, alors le père Olivier Bonnouen qui va arriver, je crois, et moi-même. Alors, cette thématique, chaque jeudi, nous aurons une thématique un peu particulière et un angle d'attaque particulier. Ici, bon, j'ai intitulé cette leçon « L'homme est habité » et j'essaye de montrer dans une sorte de progressivité et dans divers langages jusqu'où l'homme est à la fois bien lui-même, il est bien à soi, comme on dit en philosophie, il est bien un être et sujet, et en même temps il peut se laisser habiter par d'autres types de présence sans s'aliéner, sans se nier lui-même. Il me semble que c'est important d'aborder cette réflexion, cet axe de réflexion dans un séminaire qui est plus large, parce que nous avons des séances le mercredi et le jeudi matin, pour assumer ces deux thèses. La première idée maîtresse au niveau du corps et de l'esprit de l'homme, c'est de voir qu'il y a une unité du sujet, de l'être humain dans le temps, à travers les apparences d'un corps et d'une personnalité qui varie selon les âges de la vie. Il y a une mode, surtout pour les hommes et les hommes de 40 ans, quand leur épouse veut fêter leur anniversaire, d'aller chercher des photos de leur mari à chaque âge de la vie. Mais c'est quand même toujours leur mari, justement. C'est pour montrer que depuis qu'il est bébé jusqu'à 40 ans, c'est malgré les apparences différentes de son corps, eh bien, c'est le même homme dont elle fête l'anniversaire, en tout cas en famille, etc. Aussi à travers les apparences, c'est la même unité du sujet, les apparences d'une étrangeté corporelle, c'est-à-dire un handicap, une maladie forte ou la mort. Ces deux thèses ou ces deux modalités de la thèse sont importantes dans un séminaire de bioéthique parce qu'elles nous permettent elles sont comme un antidote, en vrai, pour nous permettre de nous situer par rapport à une culture et une définition de l'homme qui modélise l'homme en son corps de beauté, de perfection et de performance. Or, ce modèle de performance ne doit-il pas être contesté ou réfléchi plus ontologiquement, plus théologiquement? Donc, est-ce bien le même homme qui advient à lui-même au fur et à mesure de la conception jusqu'à la fin de sa vie? Est-ce bien le même homme? C'est une question philosophique. Et en même temps, le lieu où on l'observe, c'est dans son corps. Est-ce que ce corps, dont les apparences peuvent changer, est-ce que ce corps-là, eh bien, nous dit quelque chose du mystère de la personne? Donc, je tâcherai de montrer, à travers le thème, le corps est habité, un trait du mystère du corps, un trait, il y en a d'autres, il y a d'autres manières de parler du corps aussi, un trait du mystère du corps qui atteste qu'en tout être humain, le corps est signe d'une transcendance, d'un au-delà. Je ne parle pas de Jésus-Christ ici, je ne parle pas de l'Église. Mais le corps est signe d'une transcendance qui nie toute conception matérialiste, mécanique ou naturaliste du corps. Et qui, d'une certaine manière, justement, conteste l'uniformisation culturelle à laquelle nous assistons. Peut-être que des phénomènes comme le tag ou d'autres peintures à fleur de peau, tatouages, sont une résistance transcendante ou une résistance qui exprime la transcendance des sujets par rapport au caractère totalement visible du corps. Chacun étant unique en son corps, veut le dire en son corps pour rester unique. Voilà un peu. Mais je passe maintenant à cette thématique, le corps est habité. La problématique. Réfléchir sur soi, à n'importe quel âge de la vie, ou entamer une recherche justement sur ce qu'est l'homme, réflexion anthropologique, c'est un moment décisif pour tout être humain, qu'il ait 10, 15 ans ou plus. Ça dépend des carrefours de la vie. Car que de conditionnements et de soupçons ne sont-ils pas venus nous faire douter de la véritable autonomie, si pas de la liberté propre de la personne humaine. Si nous nous interrogeons sur nous-mêmes, découvrons peut-être l'amplitude des questions et des doutes sur notre condition et notre identité humaine. Si on prend les paroles du psaume 143, verset 4, cela reprend cette idée, « L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme une ombre qui passe. Qu'est-ce que l'homme ?» Et pourtant, dans le même psautier, quand on passe à la louange, il est écrit « À peine, Seigneur, le fus-tu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. » Entre ces deux affirmations de sagesse du psautier, faut-il penser à moyen terme, comme une vertu moyenne qui nous permette de vivre avec une espérance sur terre et peut-être au-delà. Dit autrement, la question, l'homme peut-il être lui-même alors qu'il est esprit plongé dans l'opacité d'un corps? Ne doit-il pas attendre d'enfin sortir de ce corps pour être vraiment? Ne doit-il pas, ou ne devons-nous pas, privilégier toutes les œuvres de l'esprit, pas de l'Esprit Saint, mais de notre esprit, le corps allant vers la terre, vers la poussière ou vers la poubelle, dans les hôpitaux, vers les systèmes d'incinération? Mais l'esprit de l'homme est-il si indépendant que cela lorsqu'on voit le poids des conditionnements culturels ou des réactions psychiques que nous avons à subir, ou même la force des images qui nous habitent? Il suffit d'être devant une télé et un club de football préféré. Il faut savoir que parfois, on ne parvient pas à se détacher de cette image. Alors, est-on libre? On est peut-être libre au moment où on décide de ne pas voir le match. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une force. Notre esprit est-il si libre que ça? Les médicaments et les drogues que nos contemporains prennent en abondance ne sont-ils pas une parabole du peu de degré de liberté dont nous disposons encore face aux réalités psychiques qui nous traversent? L'homme est-il libre? La semaine dernière, j'étais dans un colloque à Rome, et une psychologue nous a tous interpellés, particulièrement moi-même, en disant « Mais l'homme n'est pas libre. Où est notre liberté ? Même si on a un esprit pour parler, et j'espère que vous m'entendez ou me comprenez, mais on est conditionné quand même. On est tous dans un bel auditoire, on est là, une certaine catégorie sociale peut-être, on a tous été éduqués de telle ou telle manière, on n'est pas très libre finalement pour réfléchir. Ce même esprit qui fait notre dignité ou notre orgueil n'est-il pas le jeu des illusions? Depuis Descartes jusqu'aux penseurs du soupçon, Marx, Freud, Nietzsche, etc., la question est bien présente, presque lancinante, surtout pour ceux qui considèrent que les religions aliènent l'homme dans sa grandeur et sa véritable réalité. Pouvons-nous penser raisonnablement et surtout vivre librement en communion avec autrui, dans une ferme fidélité à ce que nous sommes? Peut-on être et avoir des amis en restant nous-mêmes? Est-ce que c'est possible? Et pour aimer, nous verrons, pour se marier, est-ce que c'est possible? La considération des vies humaines, parfois brisées par des trahisons, des refus d'aimer, des actes mauvais, ne place-t-elle pas toute réflexion dans une réalité cassée ou pécheresse? Dit autrement, ben la psychologue nous disait à tous, oui, vous pensez comme si vous étiez dans les deux premiers chapitres de la Genèse 1 et 2, mais il y a le chapitre 3 avec la chute, depuis là nous sommes dans un monde cassé et tout est cassé, eh bien, vivons cassés. Mon chef scout aurait dit, cassez-vous, oui. Mais, donc, je viens à la penser une bonté originelle ou un bonheur ou une réconciliation finale, n'est-ce pas pure utopie ou illusion, à la fois pour nous comme personnes et pour les peuples? Je fais une petite bifurcation à la suite de cette objection à partir d'un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur et qui a écrit un livre qui s'appelle « Soi-même comme un autre ». Et dans cette étude, longue et fouillée, il cherche à décrire justement l'être humain, le sujet, dans sa vérité, en essayant de ne pas tomber dans un lyrisme ou dans une exaltation du sujet. C'est rester entre le sujet exalté et la critique contemporaine qui dit que le sujet est disloqué, cassé. Et il en vient à dire, relativement paisiblement, que être soi n'est pas une tranquille possession. C'est une tâche à réaliser. Mais il ne développe pas une philosophie d'un sujet fort, irréductible, mais il dit entre le soi, agissant et souffrant, fragile et menacé, entre cette identité-là et rien, il existe la figure d'un soi, on traduirait d'un être humain, d'un sujet. En latin, on dit d'un soi ipsé, qui est irréductible au soi, qui est le même, idem. Donc il y a une identité qui existe. Cette longue étude met en évidence quelque chose d'important pour notre question, c'est que l'être humain, à travers les limites qu'il subit et qu'il éprouve dans son histoire, demeure en lui de manière indélégable. C'est pour ça que j'ai utilisé la thématique de l'habitation, de la demeure, de la maison. L'être humain, malgré ses vicissitudes entre l'idem et l'ipsé, demeure fidèle à lui-même. Il ne peut pas totalement se déléguer, il ne peut pas totalement se noyer, se diluer dans un autre. Il est pour lui-même. Il y a des maladies, bien sûr, psychiques où l'on voit cela, mais en soi, dans son être, il est pour lui-même, il est pour autrui, il est pour Dieu. Il a, dirait-on dans un certain vocabulaire, sa demeure substantielle. Comment le mettre d'une certaine manière en évidence? Eh bien, je vous propose de décrire cette habitation de trois manières, progressivement, de parler de l'être humain comme d'une présence à soi, et puis comme il est en communion personnelle avec les autres et en communion aussi avec Dieu. Donc, pour l'instant, j'ai utilisé un vocabulaire un peu plus existentiel, j'ai utilisé un vocabulaire un peu plus philosophique, mais vous verrez qu'à la fin, je passerai insensiblement à un vocabulaire plus théologique. Une présence à soi. Pour décrire l'être humain, il convient d'éviter des pièges comme ceux des dualismes anciens, l'opposition âme-corps, nature-esprit. Il faut essayer de pouvoir décrire de manière unifiée un être d'esprit incarné. Aussi, la question de la relation de chacun d'entre nous à son propre corps sexué est-elle décisive? En français, il y a deux verbes, le verbe être et le verbe avoir, qui peuvent exprimer cette relation de chacun d'entre nous, du sujet à son corps. Il est bien sûr que nous avons un corps et nous pouvons prendre distance par rapport à lui en le posant devant nous comme un objet. Et les sciences biomédicales sont appelées à le faire régulièrement. Un chirurgien doit le faire, sinon il fera mal à son patient. Nous avons d'ailleurs de plus en plus le sentiment que tout dans notre corps peut être un pur visible. Il suffit de voir les images, il suffit de faire pas seulement des échographies, des scanners, et bien tout l'intérieur de notre corps que nous ne voyons pas habituellement, cet intérieur de notre corps nous devient visible. Et donc nous pensons et nous vivons peut-être de plus en plus comme si tout était visible. Et nous nous attachons à ce corps de mieux en mieux, nous y faisons attention pour lui-même, ce corps devient très précieux, on le comprend, il est même notre propriété, et il sert d'argument par exemple dans l'avortement, mon corps est à moi, mon ventre est à moi, c'est plus précis, nous avons le droit d'en disposer. En quelque sorte, il est sacré, mais c'est un nouveau sacré qui est passé par les sciences et qui passe par le sujet qui sacralise son corps. Car finalement, le degré de sacralisation du corps n'est pas un signe d'un au-delà du corps, mais au contraire, dans ce contexte, il est sacré non pas parce qu'il est plus qu'un objet devant moi, mais parce qu'il est plus un objet à ma disposition que un outil de jardinage que je dois aller chercher quelque part dans ma maison. Non, je peux prendre ma main plus vite qu'un objet. Or, cette objectivation, à la limite, est une illusion, car ce que nous considérons toujours de notre corps est une image de notre corps qui est autre. Nous oublions, quand nous considérons tous les membres de notre corps, nous oublions que pour connaître ce propre corps personnel, nous devons être dans notre corps, nous devons être présents à notre corps. Quand je dors, quand nous dormons, nous ne connaissons pas notre corps comme quand nous pouvons l'observer. C'est différent, même si nous sommes dans notre corps. Mais donc, la condition sine qua non de toute connaissance de notre corps, de toute objectivisation, de toute sacralisation, c'est le fait d'être un corps. C'est le fait d'être vivant aussi. Car celui qui est mort ne peut plus faire cela, ne peut plus considérer son propre corps. Le corps comme tel, donc, dans ce vocabulaire, être et avoir, reste comme un mystère que l'on connaît bien, mais dont on ne parvient pas à faire totalement le tour, puisqu'on ne peut pas s'abstraire totalement du corps que nous sommes. Donc, pourtant, ce corps, nous y sommes identifiés. Cette identification est décisive. Je ne vois personne d'entre nous quitter son propre corps pour le prêter à un autre, et réciproquement. Donc les verbes « être » et « avoir » montrent en quelque sorte leurs limites et signalent que la relation à notre corps est importante, décisive, mais justement, ce n'est pas « être » ou « avoir », c'est « être relié », « avoir une relation ». L'être d'esprit, l'être humain que nous sommes, n'est jamais sans son corps. Difficile d'étudier quand on a mal aux dents, par exemple. Voilà. Non pas que ce corps s'oppose à l'esprit dans une relation dialectique ou hiérarchique, ou platonicienne, dirait-on, mais nous sommes en relation toujours avec notre corps, parce que substantiellement, nous sommes relation au corps. Donc rencontrer l'homme, l'aimer, le décrire, le toucher comme sujet, ce n'est pas un acte purement d'abstraction, ce n'est pas virtuel non plus, on le rencontre grâce et par son corps, tel qu'il est. S'il est endormi, s'il est en coma, si c'est un petit embryon de quelques semaines, le rencontrer, c'est le rencontrer en son corps et pas une idée. On peut bien sûr passer au langage et au discours comme nous faisons maintenant, mais cela ne suffit pas. L'être humain n'est pas sans son corps, il est toujours co-présent à son corps et réciproquement. Comment exprimer encore cela, sinon par la découverte personnelle que chacun fait à sa manière, comment on dit, à ce mode. Chacun fait la découverte d'être un corps confié à l'univers, confié à d'autres corps, confié à soi. Quand on est adulte, on a oublié parfois qu'on a été dans les bras d'une maman, ou bien que des dizaines de fois, la maman ou papa nous ont baigné le corps. On a pris son bain, pas tout seul. Et quand on est malade et qu'on est confié à d'autres pour les soins du corps, on se rend compte justement d'un élargissement de la dimension du corps. Nous sommes confiés comme corps à autrui. A fortiori, dès la découverte, par exemple, j'ai introduit le séminaire par là, mais dès la découverte pour une personne de la maladie d'Alzheimer, elle appréhende qu'à un moment donné, elle sait qu'elle ne saura plus qui prend soin d'elle. Et elle ne saura plus qui dire ou comment dire à son fils que c'est son fils. Parce que c'est la logique de la maladie. Donc on est comme confié, on est enraciné dans le cosmos, dans les grandeurs, comme les limites géographiques et historiques. Eh bien, le corps personnel dit à tout âge de la vie des contraintes et des limites, ne fût-ce que par exemple, on est homme et femme. Être en vie, dit Claude Bruère, qui est un philosophe, c'est être au corps, en lui, mais aussi malgré lui, en limites et souffrances, en fermeture dans la peau, sort pas de ma peau, en menace de la mort. Être confié au monde, c'est subsister contre lui, mais dans une relation de confiance. Ce qu'on appelle, dans d'autres philosophies, la magnifique contingence du corps renvoie chaque être humain à plus loin que lui-même, puisque librement, si vous êtes en pleine santé et en pleine dynamique ce soir, vous vous dites « je suis libre, d'accord ?» Mais ma liberté est appelée à acquiescer à ce qui n'est pas elle, qui ne vient pas d'elle. Et c'est déjà à l'origine de son être que l'homme doit écouter et répondre comme à un appel éthique, bioéthique. Donc si l'homme est en vérité donné à lui-même, si sa liberté surgit de ce qui n'est pas elle, c'est-à-dire d'un corps, d'une matière, de cellules, il ne pourra se trouver et se comprendre qu'en acquiesçant librement à ce qu'il est en son corps sexué. On peut regretter d'être un homme, psychologiquement. On peut regretter d'être une femme. À un moment donné, la beauté ou la grandeur de la liberté humaine permet d'acquiescer à la réalité du corps sexué que j'ai, et que je suis. On ne peut pas rester extérieur à nous-mêmes en notre corps. Donc la demeure corporelle est le lieu où l'homme advient à lui, où il devient un vrai sujet libre et conscient, dans des limites bien sûr du temps et de l'espace que le corps dit à toute personne qui prend conscience d'elle-même. Mais l'homme en son corps peut prendre conscience d'une dignité fondamentale en même temps que d'une inviolabilité par laquelle il manifeste qu'il s'appartient et qu'il habite son corps. Dans un livre de philosophie, Karol Wojtyła, l'ancien pape Jean-Paul II, exprimait ça d'une manière assez forte au niveau de la conscience du sujet en disant que l'homme expérimente, et on peut le constater, profondément l'inviolabilité fondamentale de sa personne. Pour être homme, pour devenir homme, il a conscience d'appartenir à lui-même, de posséder son univers de pensée, de plans, de décisions, de sentiments, et la vie intérieure dont il est maître et à laquelle aucun autre n'a accès. Je crois que ces paroles disent quelque chose de plus profond que ce qu'on dit communément « j'ai droit à mon jardin secret ». C'est pas simplement un secret, c'est une conscience profonde de qui on est et qui est caractéristique d'un mystère plus profond, plus vaste, qui nous dépasse d'ailleurs nous-mêmes, mais dont on a conscience, et d'une inviolabilité qui fait que chacun de nous a un caractère, pas un caractère tempérament, mais une identité unique. Je poursuis la citation, « Il expérimente l'homme, sa différence personnelle, son autonomie, son caractère unique, et tout cela concourt en lui à cette conscience de l'inviolabilité de sa personne. » Et les paroles qui suivent sont à la fois étranges et belles, au sens philosophique du terme. On pourrait parler aussi, dit Karoo Tiwa, à ce propos de la virginité de la personne humaine. De par sa nature, l'homme est vierge au sens où sa personne possède son univers intérieur, cette vie intérieure qu'il façonne et dont il répond. Il ne s'agit pas d'une description morale, ici, il s'agit de description métaphysique. L'homme est vierge au sens où sa personne possède son univers intérieur, cette vie intérieure qu'il façonne et dont il répond. Ça permet peut-être de rejoindre certaines descriptions que fait Jean Vanier de l'univers de la personne handicapée, justement. Donc un homme habité, c'est un homme qui a sa consistance propre, qui découvre comme donnée, comme offerte. Il est, comme on dit en philosophie, un ipsé, un lui-même. Au sens précis de l'adage populaire, il est donné à lui-même et il ne peut pas être repris par quelqu'un. Quand on jouait aux billes, quand on était petit, ou quand on faisait un peu du commerce sur la plage, je donne des petits exemples, hein, mais on disait « donner, c'est donner, reprendre, c'est voler ». Voilà. Eh bien, c'est pas une question de billes, mais c'est une question de la personne et du sujet. C'est ce don que l'homme est, qu'il est appelé à fortifier par l'exercice de sa liberté, n'étant pas à l'origine de lui-même. Il n'est pas une pure marionnette, il n'est pas un objet perfectionné, il est donné à lui-même pour être et devenir lui, un vrai sujet. Et le don qu'il est, puisque personne d'entre nous n'a demandé de venir à l'existence, puis le don qu'il est, n'établit pas une dépendance aliénante par rapport au donateur inconnu, à ce Dieu que je connais ou je ne connais pas, mais au contraire, le don que je suis, chaque fois que je deviens de plus en plus librement un sujet, une personne autonome, eh bien, dans un autre vocabulaire, on dirait « je rends gloire à Dieu » ou bien « je suis moi-même ». Et l'esprit humain reconnaît l'esprit dans le corps d'autrui, dans nos propres corps, quand cet esprit se manifeste, alors qu'on ne peut pas observer totalement l'être d'esprit qu'on a en face de soi. Surtout si c'est un bébé ou bien en fin de vie, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il me reconnaît encore sur son lit d'hôpital? L'être d'esprit qui dit librement « merci, je t'aime, j'ai mal », il ne parvient peut-être pas à le dire. Il faut saisir les manifestations de cet être d'esprit. Et l'esprit apparaît à l'esprit, c'est-à-dire une table ne reconnaît pas si un homme est vivant, tandis que vous et moi, on peut essayer en tout cas, parce qu'on est des êtres d'esprit. Les traits de ce qu'est l'homme comme conscience, liberté, nature, esprit sont liés donc à la manière dont il habite en son corps et dont il se dit en son corps. Autrement dit, je termine ce point, cette présence à soi, le corps est vraiment la demeure de l'esprit, qui n'en est pas le propriétaire, mais qui s'en découvre le familier. J'habite. J'y habite. Et j'habite là, dans mon corps. Et j'en suis heureux, que ce soit une petite chambrette ou que ce soit un grand palais. Le deuxième point qui manifeste non plus seulement la présence à soi, l'autonomie, le sujet vraiment autonome, bien sûr, l'être d'esprit, mais une présence de communion. Le fait de s'appartenir comme sujet n'oblitère pas, ne cache pas, ne nie pas la réalité d'un autre type d'habitation personnelle. Car l'existence donnée de l'être humain s'éprouve toujours comme une attente d'une communion qui ne soit pas étrangère à ce qu'il est. J'habite bien chez moi et en fait j'attends toujours comme que l'on sonne à la porte de qui je suis, ou que l'on me téléphone, bien pour un adolescent, qu'on lance un SMS. Voilà. Mais SMS, il passe aussi par la manipulation du corps. Voilà. Cette intuition encore d'ordre philosophique, est traduite quand même dans l'Écriture sainte, par, dans le deuxième récit de la Genèse, dans les mots même du Créateur, qui dit en Genèse 2, 18, « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. » Dans le fait de nommer les êtres vivants, l'homme constate qu'il ne trouve pas l'aide qui lui soit accordée. Et donc Dieu doit agir en ce sens. Et il tira la femme du côté d'Adam et la lui présenta. Les premières paroles humaines de ce monument qu'est la Bible, pour tout homme, sont des paroles de louange, ou en tout cas d'étonnement. « Voici cette fois l'os de mes os, la chair de ma chair, celle-ci on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. » Et la double modalité d'être personne, la double modalité homme-femme, ish et isha en hébreu, apparaît à ce moment-là dans l'avènement de la parole, alors que l'homme dans son humanité avant était décrit dans le récit par le mot Adam, ce qui est tiré de la terre. Mais c'est décisif, car à la fois c'est dans l'acte où Dieu n'est pas nommé, mais il est quand même celui qui est l'horizon de la création. Dieu mène la femme à l'homme, et où l'homme reconnaît la femme dans son altérité, que dans la parole surgissent deux sujets qui à la fois sont un et en même temps ont besoin l'un de l'autre. Que l'on dise donc que l'homme est un être social, sociologue, que l'on dise qu'il vit sous le visage d'autrui, Lévinas, qu'il s'éveille à ce qu'il est dans la relation d'autrui, tous les psychologues, qu'il devient un jeu dans la relation avec un tu, encore Lévinas, autant de manière d'appréhender cette vérité, l'homme n'est pas une bulle ou une monade solipsiste. Et ce qu'on appelle les personnalismes, les divers personnalismes, nous ont aidés à nommer la richesse de cette attente mutuelle dans et par la relation homme-femme. Les sciences humaines nous décrivent, bien sûr, des relations de domination qui caractérisent les relations humaines, c'est sûr. C'est la réaction aussi du féminisme par rapport au machisme. Il y a dans l'histoire des dialectiques de maître-esclave dans les relations courtes, dans les couples, pas pour rien qu'on parle de violence conjugale, etc., mais aussi dans les relations longues entre les hommes. Mais est-ce l'ultime réalité de la relation? Eh bien, en tout cas, les premières paroles de la Bible nous disent que non. Ne faut-il pas observer un lien de communion ou de coprésence qui ne soit pas justement simple destruction mutuelle, combat ou fusion? Ne peut-on pas penser une promotion mutuelle de deux êtres dans ce qui fait l'essence de leur personnalité, c'est-à-dire leur liberté, leur amour? Et ce lien de communion n'est-il pas à la racine comme au terme de l'existence même de tout être humain? N'est-ce pas justement l'horizon, même si dans les faits il y a des réalités parfois brutales de conflits, mais n'est-ce pas l'horizon le plus concret sur lequel et dans lequel il faut appréhender la relation de l'homme et de la femme, la relation entre les êtres humains? Peut-on se connaître en pénétrant l'un chez l'autre et en y demeurant? Je crois que tous ceux qui, de facto, ne veulent pas se marier, répondent non à la question, inconsciemment. Peut-on vraiment se connaître en pénétrant même conjugalement dans le corps de l'autre et réciproquement, se laissant pénétrer dans l'acte conjugal en toute confiance et dans un lien et une promesse mutuelle? Si nous répondons positivement à cette question, eh bien, nous attestons justement une coprésence de l'homme à l'homme, au sens de son humanité, de l'homme à la femme, bien sûr. Il faut attester que cette expérience n'est pas simplement qu'imaginative, ou lyrique, ou poétique, ou virtuelle quand je vous parle. Il faut pouvoir en avoir le témoignage par autrui, ou soi-même pouvoir entrer dans cette dynamique de confiance, relationnel. Et cela se passe non pas au cours d'un exposé, mais dans le corps sexué, dans l'être de chair que nous sommes tous. Aussi, deux réalités dont je vais parler maintenant manifestent et témoignent de cette possibilité communionnelle, l'amitié et l'amour. Non pas comme des sentiments, des valeurs et des idéaux, mais comme un flux de vie et une condition charnelle entre les êtres humains. La vie sociale est faite de divers types de relations, mais leur profondeur est variable. On peut être d'un même club de football, c'est quand même pas la même chose que d'être de la même famille ou de faire une réunion entre cousins, c'est différent. L'amitié et l'amour pointent nos regards sur une manière d'être soi, tout en étant très proche et intime d'autres personnes. Ces sentiments et ces liens supposent, je souligne le terme, ces sentiments d'amitié ou d'amour supposent une invasion mutuelle qui fortifie les personnes et qui les font vivre. Elles ne se perdent pas dans l'amitié. Elles se trouvent en accueillant chez elles non seulement le regard d'autrui, mais ses confidences, ses élans, ses réflexions, ses désirs. Et cette confiance doit être accordée librement et consciemment. Ces liens sont tissés dans la joie, dirait Gabriel Marcel, c'est un philosophe existentialiste, dans la joie de la rencontre. Mais ces liens supposent aussi et engagent les personnes dans la durée. L'homme et la femme, l'homme ou la femme, doivent pouvoir compter sur l'ami ou sur l'époux, l'épouse. Le lien est une ouverture, une vulnérabilité qui est offerte à l'autre dans l'intériorité du « je ». Mais le paradoxe de cette vulnérabilité, de cette habitation mutuelle, ne fût-ce que dans l'imagination, je pense à mon ami, je pense à ma femme, je pense à mon époux, etc. Eh bien, le paradoxe, c'est qu'un lien fort rend fort. La vérité d'une amitié ou d'une amitié, c'est un lien fort me fortifie dans l'être personnel que je suis. La personnalité n'est pas affaiblie par cet accueil confiant dans l'univers intérieur qui est le sien. Le sujet ne perd pas son caractère propre, mais il le peaufine, tant il est vrai que cette communion amicale ou amoureuse révèle à celui qui la vit ce qu'il est en profondeur. Cette plasticité donc du « je » à se laisser habiter par autrui n'est pas toujours et n'est pas une aliénation, comme si l'autre me prenait en otage et que je devenais son esclave. Elle peut être une promotion dans l'être du propre du sujet. Le sujet se connaît mieux comme sujet dès lors qu'il accueille en lui l'ami ou l'épouse. Il se connaît mieux. Il se connaît mieux, donc il naît à nouveau à lui-même. Et cet enrichissement, c'est pas la même chose que le nombre d'amis sur Facebook, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas quantitatif, mais cette dilatation d'un foyer intérieur qu'est le sujet, qu'est sa demeure personnelle. La flamme de l'être humain grandit dans l'amour, dans l'amitié, en restant sa flamme intérieure. Mais s'il est vrai, je vais distinguer, que l'amitié et l'amour nous offrent les traits d'une communion de personnes, ils ne sont pas équivalents. Les rires des amis peuvent être nombreux dans le cœur humain, égayer sa maison intérieure. Les richesses de l'amitié sont multiples et n'étouffent pas la liberté de ceux qui en vivent. Et de même pour l'amour, mais ce dernier pose une exigence redoutable supplémentaire, car l'amour se veut conjugal se veut exclusif et pour toujours. Il assume tous les aléas de l'histoire humaine, mais dans l'écrin d'une promesse libre et confiante entre un homme et une femme. Il est exclusif. Il appartient donc au risque de la liberté. La conjugalité, cette audace de la liberté humaine, dit la profondeur du mystère de l'être humain. Si plus personne ne se marie, nous perdrions conscience d'une partie du mystère de l'homme dans sa masculinité et de la femme dans sa féminité. Le lien conjugal n'est pas aliénation des personnes de par la richesse des sujets qui consentent à un tel don et qui le font librement. Il n'est pas aliénation car il construit des demeures personnelles qui, en quelque sorte, ont un nouveau lieu, un nous, disaient les personnalistes, le je, tu, construisent un nous où ils peuvent habiter ensemble tout en restant eux-mêmes. La métaphore de l'habitation marque ses limites, mais je dois dire, chacun a sa chambre, son immeuble, et puis ensemble, avec les deux immeubles, il y a un nouveau château ou une nouvelle tente qui se construit. Cette exclusivité est marquée dans les corps, puisque l'acte conjugal pose les fondations et construit en même temps cette habitation mutuelle des deux êtres humains. Et s'ils se donnent l'un à l'autre à cette mesure, c'est parce que l'homme et la femme peuvent mesurer aussi combien l'acte conjugal, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un acte sexuel comme un autre, mais l'acte conjugal est ouvert à un mystère personnel qui les dépasse et qui les transfigure. Ce mystère est tellement grand qu'il est le berceau naturel, le corps, et spirituel, l'esprit, de l'avènement à l'existence d'un tiers personnel qu'est l'enfant. Si ce n'est dans l'amour et par l'amour, comment comprendre la force symbolique, les exigences éthiques, la beauté de la présence de l'enfant à l'intérieur du corps personnel d'une femme? Comment une femme peut-elle oser prendre le risque de porter le corps d'un autre homme en elle, si ce n'est par amour, si ce n'est par un acte d'amour? S'il n'y a pas une valeur personnelle à la grossesse, qui est une fameuse habitation mutuelle, on comprend qu'une femme, qu'un couple, qu'une société, qu'une culture tendent à chercher à guérir de cette maladie, la grossesse, et à trouver une machine, un utérus artificiel pour éviter une expérience qui serait déstructurante pour le corps ou dévalorisante pour la femme, puisque son corps change d'aspect, etc. Et elle doit accepter un si étrange locataire dans sa propre demeure charnelle. Les époux s'appartiennent donc dans l'amour, et si l'enfant est bien le fruit de leur amour, il leur appartient dans ce sens, c'est-à-dire il est voulu par amour pour lui-même. Il surgit dans leur demeure, en tout cas aussi particulièrement dans le corps de sa maman, pour être lui, dans sa différence irréductible avec ses parents et les autres êtres humains, mais aussi l'enfant dans une communion qui lui dira toujours, même pour ceux qui n'ont jamais connu leurs parents, qu'il est fils de quelqu'un. Ou bien, s'il se reconnaît avec d'autres frères et sœurs, il est dans une situation non seulement générationnelle, mais fraternelle. Il est de la même chair, au sens d'une même volonté aimante. Donc, celle-ci n'est pas seulement un berceau, temporaire, elle est une demeure pour toujours. La symbolique de la filialité, c'est une symbolique qui ne joue pas seulement au moment où le bébé est dans le ventre de la femme, que l'enfant est dans le ventre de sa maman, dans le corps et le ventre de sa maman, mais elle joue jusqu'à la fin de notre vie corporelle. On est fils, si on se reconnaît systématiquement comme fils du vent, comme fils de nulle part, et c'est une grande souffrance, ou bien c'est une grande affirmation de soi qui cache peut-être une fragilité. Cette vérité de la communion conjugale donc s'exprime dans une appartenance qui est forte, qui ne peut être que libre, consciente, par amour, qui n'est pas possession et réduction de l'autre. Vous voyez, présence à soi, présente à l'autre, avec deux repères, qui quand même ne nécessite pas de parler directement de l'Évangile. Des amis, eh bien, ou un époux ou une épouse, on peut les avoir dans toutes les cultures et dans tous les peuples. On peut vivre cette réalité. Et toutes les cultures, dans leurs poèmes, parlent de ces deux réalités, de l'amitié et de l'amour. Jusqu'où va cette invasion mutuelle, en coprésence mutuelle. Mais elle peut aller encore plus loin. C'est le dernier point que j'aborde. C'est un sujet, un être humain qui est habité par la divinité. J'emploie un terme un peu abstrait encore. Donc face au psaume 8, versets 4-5, qui dit ceci, « Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fis ça, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu penses à lui ? Qu'est-ce qu'est ce fils de l'homme pour que tu en prennes souci ? Donc qu'est-ce qu'un univers créé dans lequel l'homme s'éprouve petit, fragile, mortel, perdu, parfois coupable et pécheur ? Pourquoi penser la création alors qu'elle n'est que d'un instant ? Ou bien, est-ce que, en durant comme je dure, au fil du temps, à travers les maladies, la vieillesse, est-ce que je reste en relation avec l'éternelle jeunesse d'un créateur ou pas ? Qu'est-ce qui grandit ou qui subsiste en moi, en l'homme ? On connaît cette phrase qui exprime d'une autre manière ce sentiment, une phrase de saint Augustin. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose en toi. » Cette phrase parle de l'origine et elle parle aussi de la finalité de l'existence. Et elle exprime une réalité anthropologique profonde. Dans le présent de sa vie, l'homme, parfois, ou de manière permanente, ou de manière fulgurante, se perçoit comme dans les mains de son Créateur, en recherche d'un sens pour son agir. Il se ressent en présence, dans l'espace-temps qui est le sien, de Dieu, ou en attente du nom de celui qui l'a mis à l'existence. L'homme éprouve comme une soif de se connaître, de connaître autrui, entre personnes. Le plus court chemin entre deux personnes passe par la personne, ou le plus court chemin entre moi et moi passe par un tiers, par une autre personne. Le personnalisme l'avait déjà dit. Mais peut-on dire que nous devons ou nous pouvons nous connaître et mieux nous connaître en connaissant la personne du Créateur? Alors que souvent nous percevons l'autre comme celui qui nous déstabilise, qui nous déstructure, qui nie ce que nous sommes, l'enfer c'est les autres. Est-ce qu'il y a un autre, et surtout cet autre, si ce n'est pas une créature que j'aime ou qui m'aime, cet autre qui est mon Créateur, va me permettre, sans m'écraser, d'accéder à la profondeur de mon être? Donc, dans la relation, je voudrais vous faire sentir ça, au moins, c'est différent. Entre un homme et une femme, on peut se sentir accueilli ou pas. Et souvent, espérons-le, en égalité de créature. Mais entre un homme et Dieu, qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas encore, la question du respect de ce qu'est la demeure personnelle du sujet se pose fortement. Pour les philosophes comme pour les théologiens, le concept de création implique un lien entre le Créateur et ses créatures. Dans l'acte même où Dieu crée, il appelle à l'être, il maintient dans l'existence, il établit un lien. Mais ce lien, c'est quoi ? C'est un lien d'esclavage, c'est un lien de suscitation, c'est un lien qui va écraser le sujet ou le... Dans la tradition judéo-chrétienne, les premières pages de la Bible explicitent et disent que la création, ce n'est pas simplement faire advenir, comme on l'a vu ce matin avec Thierry, de rien à la vie, du néant à l'être, mais il s'agit d'entrer en alliance. Il y a une alliance qui est établie dans l'acte créateur entre l'homme et Dieu. Et les mots, s'il est fait l'homme à l'image et à la ressemblance du Créateur, ces mots signifient qu'il y a une certaine correspondance entre ce qu'il est et Dieu. Je veux citer ici deux phrases très denses de Edith Stein, qui est une philosophe et puis une sainte aussi, une carme, qui disait à Dieu, « Tu es l'espace qui enveloppe mon être et le garde en lui. » Abandonné de toi, mon être tomberait dans l'abîme du néant dont tu me tiras pour m'élever à la lumière. Toi, plus proche de moi que je ne le suis de moi-même. C'est là qu'intervient la tradition judéo-chrétienne. Toi, plus proche de moi que je ne le suis de moi-même. Et parce que Dieu est plus proche de moi que moi de moi, je parviens à être proche de moi. Excuse de jouer avec ça. Mais je parviens à me connaître. Et donc, plus Dieu, plus je laisserai Dieu me connaître, plus je reconnais que la connaissance que Dieu a de moi est positive et aimante, et plus je me connaîtrai moi-même. Et je me trouverai moi-même. Cette alliance entre créateur et créature se perçoit dans la différence entre l'homme et avec les animaux par la raison et son déploiement. L'homme n'est pas étranger non plus à ce que Dieu, dans de multiples aspects ou facettes de sa personnalité, dans ce qu'il représente comme corps, cœur, esprit. Le fait de ne pas avoir une prise absolue sur son origine définit d'ailleurs une structure de liberté qui a un dynamisme éthique, exprimé d'ailleurs par ces paroles du psaume 116 au verset 12. « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» Un juif, un païen, un chrétien peuvent dire cette phrase, même s'ils ne connaissent pas de la même manière le Seigneur. Mais comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? La question éthique, mais aussi la question anthropologique, est-ce que vraiment il me faut rendre quelque chose au Seigneur, c'est-à-dire me rendre moi-même, me donner à lui pour mieux être moi, pour mieux me connaître. Et je crois que le fait de dire que la création est une alliance donne cette réponse positive, ou mène à cette réponse positive. Si c'est une alliance, eh bien l'homme peut s'y trouver, se fortifier, se développer, il advient à lui-même au lieu de se perdre ou de s'aliéner. Cette communion dans l'ordre de la création place le cœur de l'homme dans l'attente d'une visite gracieuse et nouvelle du Créateur. Bien sûr, il y a, pour les philosophes, on parle d'une immanence du Créateur à la créature, c'est-à-dire à l'intérieur même de l'acte de liberté, j'en sois conscient ou pas, nous pouvons argumenter et mettre en évidence que le Créateur est à l'intérieur même de l'acte de liberté que je pose, qu'il guide les pas de l'homme. Mais qu'il soit encore plus intime, cette grâce-là n'est pas à la mesure humaine. Je ne peux pas l'inventer, ni même y correspondre tout de suite. Cela ne vient qu'à travers la volonté divine d'un Dieu que je connais ou que je ne connais pas, mais la volonté divine de prendre chair de notre chair, d'être un homme comme nous, d'aller jusqu'au bout de l'amour et de nous sauver. Et nous posons ainsi comme en attente, mais aussi dans l'histoire, Dieu a répondu, un argument de type théologique. Avec la personne historique du Christ et l'envoi de l'Esprit-Saint, nous devons parler d'une nouveauté. Il est venu habiter chez les hommes, faire sa demeure chez nous. C'est-à-dire que la divinité, dans notre vocabulaire, la Trinité, entre dans le temps et l'espace. Et cette intrusion n'est pas seulement générique, comme on voit dans certains films. C'est pas la divinité qui entre dans le cosmos ou dans une population, dans le genre humain. Ça ne suffit pas. C'est pas générique. Elle entre dans toute créature humaine, dans son individualité. Toute créature qui a l'image, pour nous, après l'interprétation de l'Évangile, à l'image de Marie, à l'Annonciation, accepte que Dieu lui-même vienne faire sa demeure en nous, afin que, comme dit Saint Jean, nous puissions vivre de son amour sauveur. Et comme dit Saint Jean encore, désormais alors, qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Cette opposition entre le Créateur, l'absolu, l'infini dans le fini, mais elle s'efface. C'est-à-dire, s'effacer, c'est un grand mot, elle est permise, elle s'inscrit dans l'histoire en étant bien présente par amour. Le Christ a assumé en lui tous les hommes, le monde et son histoire. Quand on dit que le Christ est le premier Adam, ça veut dire qu'il était au début de la création comme il sera à la fin. Il s'est uni à toute humanité et à tout homme individuellement. Cette présence de l'absolu dans la limite humaine et cette habitation qui respecte et enveloppe chacun dans sa liberté dit en vérité ce que nous affirmons le soir de Noël, hein, le mystère de l'incarnation. Et je vais le dire avec les phrases, avec une phrase théologique argumentée, enfin, comme un argument de Gaudium et Spes, une constitution conciliaire, numéro 22. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est uni d'une certaine façon à tout homme. Pas seulement baptisé, notez-le. D'une certaine manière, à tout homme. Et cette union se déploie alors dans le temps et dans le corps de l'Église. Et c'est là que l'on peut faire une petite distinction, c'est sûr. Le sacrement du baptême introduit l'homme dans la passion et la résurrection du Christ. Donc le portail baptismal, ce n'est pas un rite de purification, même s'il est magnifique et beau quand on le voit pour les hindous au Gange. L'action de l'esprit dans le baptême fait naître un homme nouveau. C'est une nouvelle connaissance qui ne passe pas par une communion sexuelle. Alors qu'elle est belle dans la création. C'est une identification à la personne du Christ dans le temps et pour l'éternité. Mais les signes sont à ce point discrets qu'ils sont peu perceptibles. Mais l'homme n'est plus ni seul, ni seulement en communion avec ses semblables, il est habité par le Dieu trois fois saint. C'est un langage de croyant ici. Il est la demeure du Très-Haut. Il est incorporé, dirait saint Augustin, dans le corps du Christ. Il est adopté, il devient enfant de Dieu, co-héritier du Fils promis à la vie éternelle. Diverses expressions de l'Écriture sainte et de la tradition qui rendent compte de ce qu'on appelle l'inhabitation. In, ça veut dire en latin dans, inhabitation divine dans le cœur de l'homme. Et l'homme peut s'y prouver en son corps, changé, transformé, au point de vouloir dire, c'est un acte de foi, mais en son corps, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2.20. C'est pas mécanique, c'est pas litanique, c'est une œuvre de liberté, une découverte, une attestation, un abandon de l'homme à cette présence qui lui est plus intime à lui-même que lui-même et qui fait histoire avec lui. C'est une manière de parler. Je veux dire, elle n'est pas relative, elle est liée au langage théologique. Mais au moins un mode d'argumenter et de contrer l'affirmation suivante, l'homme se perdrait en Dieu. C'est un axe plutôt panthéiste aussi, ou agnostique, non. Non, le singulier que l'homme est, le sujet, s'universalise dans la communion à laquelle il s'abandonne et dans la communion trinitaire qui habite en lui. Donc l'intelligence, au moins si je peux dire ces mots devant vous, et peut-être, j'espère que vous comprenez quelques mots, quelques termes de mon langage, c'est ce qu'on appelle un discours, ça veut dire que nous sommes capables de prendre conscience de l'inhabitation divine dans le corps humain, même si ça nous dépasse. Mais ça entre dans la rationalité du langage et dans la communication que nous faisons les uns les autres de ce type de présence. Quand on dit l'Esprit Saint se joint à notre esprit pour crier Abba Père, ben c'est compréhensible. C'est bien sûr en grec, on peut le traduire en chinois, ça serait plus difficile à comprendre, mais c'est pas d'abord un acte de foi, mais on peut en dire c'est un acte de foi. L'Esprit Saint se joint à notre esprit pour crier Abba Père, pour le reconnaître en notre corps personnel et dans le corps d'un peuple, d'une famille, d'un couple, etc. Donc, l'amour libre de Dieu introduit le baptisé dans une communion intime. Donc, cette réalité sacramentelle, c'est par là que je vais terminer, mais s'offre à nos attentions de manière particulière dans la vie mystique. On va dire, ça y est, il va décoller. Déjà avec la Trinité, on était loin, mais bon. En fait, l'inhabitation des personnes divines est pour tout chrétien la source de la vie divine donnée en germe dès le baptême. Et comme elle est comme elle en est l'accomplissement donné en plénitude dans l'union béatifique, c'est-à-dire que nous attendons et nous espérons d'être en communion totale en notre corps un jour avec Dieu. Mais nous sommes dans l'histoire. Mais en disant cela et en arrivant à ce point du développement du sujet habité, je voudrais redire combien toute personne vit et peut vivre une expérience directe de Dieu. C'est la condition humaine. Ça n'advient pas, même pour un baptisé, toujours à la conscience de manière explicite. Mais parfois, cela vient dans un langage très personnel. Si on lit la vie de certains saints et saintes de Dieu, ils ont des mots pour dire qu'ils sont unis à Dieu, à Jésus, au Père, à l'Esprit. Donc ils ne disent pas nécessairement inhabitation, mais ils disent qu'ils sont aimés de Dieu et qu'ils aiment Dieu, pour faire bref. Mais qui dit habitation ou inhabitation dit une durée, une permanence. Et donc ce qu'on appelle les états de communion, les états mystiques, les états d'union à Dieu peuvent varier d'intensité, de clarté, de signification. Mais le langage utilisé, un homme, Saint Thérèse d'Avila ne parle pas comme Saint Ignace de Loyola. Ils sont plus ou moins quand même de la même époque. Mais la diversité de langage est d'abord une attestation de qu'on ne se fait pas tous illusions en train de répéter comme des perroquets, mais aussi une attestation qu'il s'agit toujours d'un sujet libre et conscient du mystère d'une présence qu'il vit. Un saint, il y a des saints qui sont plus muets ou qui n'ont pas écrit, nos arrière-grands-parents peut-être, etc., ne disent pas tout le mystère d'union qu'ils ont vécu, mais ils peuvent révéler que Dieu peut, par leur action, que Dieu peut habiter le cœur de l'homme sans nier l'homme. C'est ça le point. Sinon on est athée, c'est-à-dire non seulement un athée militant, mais est-ce que Dieu tue l'homme quand il vient habiter dans l'homme? Est-ce qu'il nie l'homme quand il vient habiter dans l'homme et l'aimer? Non. Quand l'homme est habité de Dieu, il parle de Dieu. Et le vocabulaire des mystiques chrétiens, je cite, « relatif à l'inhabitation divine est très varié. On emploie des images, parfois des images qui peuvent s'exclure dans leur variété. On parle d'illumination, de ténèbres, d'images, de ressemblances, de sortie de l'âme, de mariage mystique, d'amour, de présence mutuelle, tout ça, infus au fond du cœur ou de l'âme. Mais tout ça témoigne d'une existence et d'une vie. L'homme peut vivre avec Dieu et Dieu peut vivre avec l'homme et peut vivre même ensemble dans la même maison qu'est le corps personnel de l'homme. Et voilà, je termine avec ça pour laisser souffler un petit peu et poser des questions. Mais l'attestation la plus manifeste, ben alors c'est un langage de croyant et théologique bien sûr, c'est quand on considère l'homme par excellence, qu'est le Christ. Quand on lit un évangile, on voit les actes, les paroles du Christ qui sont, moi j'utilise cette parole, comme gorgées de sens. Ça. D'un sens, on dit spirituel, d'un sens qui nous dépasse et qui peut combler toutes les générations. Et ce sens est la matière de toute anthropologie théologique. Et si vous relisez les paroles justement significatives que l'on étudiera avec plus de précision, le psaume 139-138, eh bien, quand on constate, le priant qui constate, « Seigneur, tu me sondes et me connais, que je marche ou que je reste assis, mais tes pensées, mes pensées te sont toutes familières, etc. » Quand on commence cette constatation et cette prière, à la fin, on la termine en disant, le sujet qui prie dit, « Seigneur, puisque je suis à ce point moi-même une merveille, verset 13, une merveille à tes yeux et à mes yeux, je découvre que je suis une merveille depuis le sein de ma mère, mon embryon, mon goème, unique foi, un apax théologique. Eh bien, puisque je découvre que je suis une merveille, eh bien, je te redemande Et je te prie, sonde-moi, connais mon cœur, viens en moi, viens habiter en moi. Et c'est comme une attestation de la liberté humaine par rapport à celle de Dieu pour dire que l'homme est bien lui-même. Je vous remercie. Voilà.